Embarquez pour l'environnement de travail du futur avec Celseon, expert en virtualisation du poste de travail. Un dossier à retrouver sur le site visionarymarketing.com. Je suis avec Alain Lefebvre. Bonjour Alain.
Bonjour.
Nous allons parler de ton dernier livre, Vers l'informatique raisonnée. Tu parles dans ton introduction d'un gâchis généralisé qui caractérise trop souvent les projets informatiques de nos jours, peut-être pas seulement de nos jours d'ailleurs.
Oui, depuis toujours.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
On peut même dire depuis toujours. Mais encore aujourd'hui, ça y est, il n'y a pas d'amélioration.
Pas d'amélioration en 70 ans d'informatique ? C'est étonnant, ça a quand même fait des progrès.
Oui, les capacités se sont améliorées, les outils se sont améliorés, mais on en demande toujours plus. On est toujours aussi ambitieux, trop ambitieux, et deux fois sur trois, ça finit en désastre. Il y a un cabinet qui s'appelle le Standish Group, qui est spécialisé justement dans la mesure des succès des projets informatiques, et les meilleures années, on ne dépasse pas le tiers des projets qui aboutissent en un succès avéré. La plupart du temps, c'est des échecs, voire des désastres. Échec, ça veut dire n'a pas été conclu dans le temps et dans le budget imparti. Et désastre, ça a été abandonné en cours de route et ça arrive plus souvent qu'à tout court. J'ai des exemples précis à mettre en avant parce que généralement, on imagine toujours que j'exagère. Moi, j'aimerais bien exagérer, ça me ferait plaisir. Malheureusement, j'invente rien et j'exagère pas. Par exemple, pendant cette décennie, il y a un certain nombre de grands projets de notre glorieuse administration, l'administration française, qui ont été abandonnés après avoir coûté des centaines de millions d'euros. J'invente rien. Par exemple, Louvois, plus de 400 millions d'euros de dégâts. Sirène, 320 millions d'euros de dégâts. L'Office national de paix, le projet a finalement été arrêté en mars 2014. 600 millions d'euros de gâchis. Donc ça, c'est des exemples précis. Mais c'est des exemples précis qu'on connaît parce que c'est le gouvernement et les gouvernements sont obligés à une certaine transparence. Les opérateurs privés, moins. Mais malgré tout, on a des éléments qui montrent que généralement, les projets informatiques, les grands projets informatiques sont des bains de sang au moins une fois sur deux. Par exemple, les implémentations de SAP sont abandonnées une fois sur deux. Récemment, il y a Lidl en Allemagne qui a annoncé qu'il renonçait à sa mise en place de SAP. Et pareil, là, ça leur a coûté plusieurs centaines de millions d'euros. Je ne sais plus exactement combien. Ouais. On pourrait retrouver les chiffres. Non, généralement, les grands projets, et c'est là où le bât blesse, se termine mal en général.
Mais les petits projets peuvent réussir aussi.
Voilà, c'est ça l'essentiel du message de ce livre. C'est, mon but, ce n'est pas d'interdire le développement spécifique, comme certains pourraient le penser. Ce n'est pas ça du tout. C'est justement de donner sa chance aux petits projets en évitant d'investir toutes ses ressources, tous ses moyens dans des grands projets qui n'aboutissent pas, ne serait-ce que parce que ils durent trop longtemps, donc on est victime de l'effet tunnel, de l'effet comité, et ainsi de suite. Donc on a mobilisé toutes ces ressources sur quelque chose qu'on finit par abandonner. Et du coup, les petits projets plus modestes, qui apportent pourtant de la valeur, eh bien eux, il ne reste jamais rien pour eux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des phénomènes comme le Shadow IT qui se manifestent dans les organisations. C'est pour ça.
Alors si on remonte un peu dans le bouquin, tu nous parles de tournants récents de l'IT. Il y en a certains qui sont récents, pas tant que ça. Ça commence avec la crise de l'an 2000. Peut-être même nos jeunes auditeurs ne savent pas trop ce que c'est la crise de l'an 2000 d'ailleurs.
Alors, à la fin des années 90, on s'est aperçu que beaucoup des programmes informatiques un peu anciens, parce qu'il faut savoir que l'essentiel de l'informatique de gestion a été, pour les grandes organisations, mis en place, développé dans les années 60 ou au plus tard dans les années 70, et qu'à l'époque, pour économiser de la place en stockage, on enregistrait les dates que sur deux digits pour ce qui concernait les années. Et donc, évidemment, quand on passait d'un siècle à l'autre, ça pouvait poser problème, ça allait poser problème. Donc, il y a eu une grosse crise qu'on a appelée la crise de l'an 2000, où il a fallu corriger des centaines et des milliers de programmes à la main pour arriver à leur faire passer ce problème de date. Bien souvent, d'ailleurs, les corrections n'ont pas eu lieu. Les grandes chaînes de gestion ont été remplacées par des ERP tels que SAP, justement, mais pas seulement. Ça a été un grand moment, un âge d'or pour justement ces éditeurs de ERP. Mais je cite cette crise parce que ça a été l'occasion d'une rupture de la confiance entre l'informatique et les directions générales, parce que tout d'un coup, on s'est aperçu, les directions générales se sont aperçues qu'elles ne pouvaient plus, qu'elles ne pouvaient pas avoir confiance durablement dans leur informatique, puisqu'il y avait des pièges cachés, des bombes à retardement qui pouvaient se réveiller comme ça à l'occasion d'un changement d'année. Donc ça a été un gros traumatisme, une grosse rupture, même si au final la crise n'a pas été aussi grande que ce qu'on avait envisagé au départ.
Ouais, il y a eu quelques années plus tard, vers les années 2004, si mes souvenirs sont bons, la fameuse bombe de Nicholas Carr, IT doesn't matter.
Cet analyste qui est très intéressant et qu'il faut lire en fait, il ne faut pas se contenter de lire ses résumés, il faut lire ses livres. Et récemment il a écrit également sur Google, il a écrit sur la tendance à l'abrutissement généralisé, qui sont des livres assez formidables. Il a remis en cause une des vaches sacrées de l'informatique, à savoir que l'informatique, les projets informatiques n'étaient pas stratégiques. Mais là, il faut s'entendre sur la définition exacte du terme stratégique. Le problème, c'est qu'à notre époque, il y a beaucoup de définitions qui sont surexploitées, complètement galvaudées. Par exemple, les gens emploient le terme révolution à tort et à travers, alors qu'il faudrait mieux utiliser percée. C'est pas la même chose et c'est plus précis. Et dans le cadre stratégique, c'est pareil. Quand vous dites l'informatique, c'est stratégique, il faut entendre que les gens disent l'informatique, c'est important. Et là, on est évidemment d'accord. Et quand on dit c'est stratégique, c'est un avantage stratégique. Ça veut dire en gros qu'on a un avantage concurrentiel qu'on est les seuls à avoir. Or, les avantages concurrentiels durables n'existent pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les concurrents peuvent copier votre mise en œuvre, d'autant plus rapidement que depuis 40 ans, une des tendances majeures de l'informatique moderne, c'est de rendre de plus en plus disponible, de plus en plus rapidement, toutes les nouveautés. Et à meilleur, ça ne veut pas dire qu'on dépense moins, on dépense toujours plus pour l'informatique, mais on en a plus pour son argent. Et donc, c'est tout à fait contradictoire avec l'idée qu'on pourrait se doter d'un avantage qu'on serait les seuls à avoir et qu'on garderait jalousement auprès de soi. Et principalement ça que Nicolas Carr a expliqué. C'est d'abord un article et ensuite c'est devenu un livre. Et c'est ce que j'ai repris dans mon dernier ouvrage. Je m'aperçois que j'ai fait une erreur là-dessus. Non pas que j'ai eu tort sur le plan fondamental. Je pense que j'ai parfaitement raison. Mais j'ai eu tort sur avec l'idée de vouloir combattre cette perception. L'informatique stratégique, c'est une croyance. On ne s'attaque pas à une croyance avec des arguments raisonnables, rationnels. Les gens sont persuadés que l'informatique est importante et que ça se traduit par un adjectif stratégique. Ça ne sert à rien de combattre ça.
Alors après, un petit peu plus récemment, tournant des années 2010, pour le changement de vocabulaire, il y a eu le fameux cloud computing et aujourd'hui, c'est devenu une véritable évidence.
Oui, c'est incontestable. Quelque part, c'est l'informatique centrée réseau qu'on imaginait déjà dès la fin des années 90, qui s'est réalisée à travers le cloud, tout simplement pour son côté pratique. C'est-à-dire que le cloud vous évite d'avoir à faire des installations, des paramétrages, des mises au point. C'est un service qui est directement opérationnel et accessible à travers votre navigateur web. C'est un progrès fantastique. C'est un progrès fantastique et ça explique son succès. Ceci dit, il faut quand même réaliser que le cloud a mis presque 15 ans à s'imposer. Aujourd'hui, on peut considérer qu'il a gagné la bataille, mais il a quand même fallu une quinzaine d'années pour que cette logique du cloud et des applications SaaS s'impose.
Alors, dernier tournant important, et celui-là, il est beaucoup plus récent, c'est le confinement et le télétravail.
Oui, alors le télétravail, c'est pareil. C'était une anomalie parce que ça faisait au moins une dizaine d'années, au minimum, que moi, je me demandais pourquoi est-ce que le télétravail ne se répandait pas plus, ne s'imposait pas. Pourquoi est-ce que les gens ne comprenaient pas qu'il valait mieux organiser une réunion par vidéoconférence, faire des centaines de kilomètres pour s'enfermer trois quarts d'heure dans une salle climatisée et parler 30 secondes. Donc, il y avait une espèce d'évidence, mais l'évidence ne suffit pas toujours. Et tout d'un coup, le confinement a comblé l'écart qu'il y avait entre la perception perception générale et la disponibilité des outils. Tout d'un coup, on a été obligé de se rendre compte que c'était beaucoup plus rationnel, beaucoup plus pratique. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut généraliser à tout prix, complètement et pour toujours, uniquement le télétravail et bannir complètement toutes les réunions physiques, tout le travail sur des open space ou autre. Non, ce n'est pas ça que je dis. Mais une utilisation rationnelle des outils aurait dû s'imposer depuis longtemps et ça a été en quelque sorte le seul bénéfice qu'on a eu de cette période extraordinaire, extravagante du confinement, c'est finalement de coller tous les bouts ensemble et de se rendre compte qu'on avait là une corde solide.
Donc des tournants importants et une proposition dans ton livre de lancer un nouveau concept d'une informatique raisonnée qui permettrait peut-être de résoudre le fameux gâchis généralisé dont on parlait dans l'introduction. Alors qu'est-ce que c'est cette informatique raisonnée?
Alors, il y a trois principes généraux très simples qui sont faciles à comprendre et à retenir, ce qui se résume par lucidité, sagesse, discernement. Et qui n'aurait pas envie d'être taxé de lucidité, sagesse et discernement? Lucidité, c'est l'informatique critique pas stratégique, c'est-à-dire que, bon, là encore, même si j'ai eu tort de mettre ça en avant, il y a quand même une logique. C'est-à-dire que si vous renoncez à vouloir poursuivre à tout prix un avantage stratégique, d'ailleurs c'est vain, vous ne l'atteindrez jamais, ou en tout cas vous ne l'aurez pas durablement, bien vous allez vous concentrer sur des petits projets à valeur ajoutée et ce sera bien mieux pour tout le monde. La sagesse, c'est là encore de comprendre que les projets longs, là je cite directement ce que j'avais écrit, les projets longs sont des puits sans fin dans lesquels il ne faut pas tomber. Mais ça fait très longtemps qu'on dit ça. Si on prend les livres de Fred Brooks dans les années 70 sur le moi homme mythique, eh bien il disait déjà ça à ce moment-là. Et puis le dernier point, c'est discernement. Les modes techniques exagérés sont toxiques, ne les suivez pas aveuglément. On a bien vu ces dernières années les modes se succéder avec toujours sur un rythme effréné, faire beaucoup de buzz, alors que concrètement ça apporte pas grand chose dans les entreprises. Puis tous les 4 ans on se rend compte que la mode était exagérée, on passe à autre chose sans avoir retenu aucune leçon. L'informatique raisonnée, c'est justement d'arrêter toutes ces bêtises et d'arrêter tout ce gâchis. En gros, c'est de devenir enfin raisonnable.
Alors en conclusion, finalement, pour devenir raisonnable, il faut peut-être arrêter la diarrhée logicielle.
Oui, absolument. Il faut arrêter d'abord d'avoir des ambitions démesurées. Il faut savoir écouter ses utilisateurs. Par exemple, des phénomènes comme le Shadow IT, au lieu d'être négatifs, peuvent être tout à fait mis à profit pour permettre d'identifier ce dont vos directions métiers ont réellement besoin. Elles en ont tellement besoin qu'elles l'ont fait par eux-mêmes. Et aujourd'hui, avec la montée des outils qu'on appelle low-code, no-code, et là aussi, c'est une vieille histoire, hein, ça existe depuis très très longtemps, ils ont d'autant plus la facilité de le faire que ces outils sont disponibles en mode SaaS. Il va y avoir une montée importante, une vague importante du Shadow IT, mais au lieu que ce soit négatif, il faut savoir en tirer parti.
Est-ce que finalement, on va pas assister à une reconfiguration totale du métier des informaticiens, le bon vieux développeur d'antan? Je mets à part les éditeurs de logiciels, je parle des entreprises. Est-ce que finalement, on va encore en trouver autant que ce qu'on a aujourd'hui, les milliers d'informaticiens qu'on trouve dans les banques, par exemple, pour faire des logiciels qui finalement font tous à peu près la même chose dans le monde entier?
C'est pas sur le front des développeurs que je suis le plus inquiet, parce que des développeurs, on en aura toujours besoin. Moi, je remets pas en cause le besoin d'applications spécifiques. Moi, je remets en cause l'approche grand projet pour ces applications spécifiques. Par contre, au niveau des administrateurs système, les sysadmins, là, je serais peut-être un peu plus inquiet parce que le cloud, justement, remet en cause, au moins en partie, leur spécificité, leur valeur ajoutée, puisqu'aujourd'hui, on a plus besoin de gestionnaires de comptes, de gens qui vont surveiller les niveaux de service auprès des prestataires cloud que véritablement de sysadmins. Et c'est clair qu'il va y avoir une remise à plat de certains métiers dans l'informatique, mais ça a toujours eu lieu. Et il y a toujours eu à chaque nouvelle vague, à chaque renouvellement, un peu une remise à plat, de la même façon qu'à une époque, les développeurs COBOL ont disparu, puis on les a rappelés bien vite quand il y a eu la crise de l'an 2000. Donc, il y a tout le temps ces phénomènes de va-et-vient. Ceci dit, une remise à plat, on va peut-être la voir aussi plus globalement, parce que l'informatique raisonnée, c'est d'autant plus son heure qu'aujourd'hui, on est en train de changer d'air à travers un ralentissement très prononcé années des effets de la loi de Moore. Or, il ne faut pas oublier que depuis 40 ans, l'informatique dans son ensemble était comme un train dont la locomotive était justement cette loi de Moore qui apportait des accroissements de capacité, pas seulement de calcul, mais aussi de stockage, continu, important et à meilleur coût. Si ça, ça s'arrête ou si ça ralentit forcément, il est évident qu'il y aura des répercussions à tous les étages et à très grande échelle. Donc une remise à plat, certainement.
Dernier point, si on limite cette diarrhée logicielle dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que quelque part, il n'y a pas aussi caché derrière cette informatique raisonnée une critique de l'abus d'agilité ?
Ah, moi j'aime beaucoup les méthodes agiles et je trouve que c'est un progrès formidable. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le côté pied bien à plat, ancré sur terre, de la démarche vers l'informatique raisonnée. Il ne faut surtout pas le prendre comme une méthode dogmatique à respecter à la virgule près. Et c'est justement, en gros, ce qui est l'agilité a été victime de son succès. Tout d'un coup, les gens se sont mis à embrasser l'agilité sans vraiment bien la comprendre et bien la digérer. Donc, c'était la ferveur des nouveaux convertis. Il fallait montrer qu'on était super conforme à l'agilité et ça devenait une espèce d'auto-parodie complètement ridicule. Si l'informatique raisonnée a du succès, et je le souhaite, elle en aura parce qu'elle évitera cet écueil de la rigidité et du dogmatisme. C'est-à-dire que les principes que je mets en avant, les orientations que je mets en avant et les recommandations dans le prochain livre qui va suivre, puisqu'on est en train d'écrire une suite qui va s'appeler « L'informatique raisonnée en pratique », c'est de dire justement que tout ça ne doit pas être appliqué rigidement, ça doit être appliqué selon votre contexte. Donc il y a une grande souplesse d'adaptation, une grande souplesse d'interprétation dans ces principes, ces orientations et ces recommandations. Et ça permettra d'éviter l'écueil, la crise que traverse actuellement l'agilité.
Embarqué pour l'environnement de travail du futur avec Celseon, expert en virtualisation du poste de travail, un dossier à retrouver sur le site visionarymarketing.com.